Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
L'éviction d'Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, en fin de semaine dernière, a été un événement dans le secteur de l'énergie. Né de la fusion de GDF et Suez, le groupe français fournisseur de gaz et d'électricité est un acteur majeur du secteur. Isabelle Kocher était la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40, mais elle est aussi présentée comme celle qui a voulu engager Engie dans la transition énergétique. Que dit ce dossier sur les transformations possibles du secteur? Bonjour Marie Desgremont, vous êtes chercheur en sciences politiques associé au CSO, le Centre de Sociologie des Organisations. Engie est donc un spécialiste de l'énergie, producteur et fournisseur de gaz et d'électricité qui avait engagé un tournant en faveur des énergies renouvelables. Pourquoi Isabelle Kocher a-t-elle été évincée?
Bonjour. Pour bien comprendre cet événement, je pense qu'il est important de prendre du recul et de comprendre le contexte dans lequel se situent les énergéticiens en Europe. Ces dernières années, ils ont souffert économiquement parce que les prix de marché étaient déprimés, donc ils ont eu du mal à se faire de l'argent dans leur domaine d'affaires. Et puis, ils ont été remis en cause par les enjeux de la transition énergétique. Engie étant un acteur du gaz, donc l'activité majoritaire est le gaz. Puisque c'est une énergie fossile et polluante, on est voué à en sortir et donc son modèle d'activité principal est menacé. De fait, Isabelle Kocher a tenté de diversifier l'activité d'Engie, d'aller dans les énergies renouvelables, d'aller dans les services, mais ça a été une tentative un peu difficile parce que ça a été une grosse réorientation des activités principales d'Engie qui n'ont pas forcément apporté les bénéfices escomptés.
C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné tout de suite parce qu'on ne peut pas a priori lui reprocher de ne pas avoir eu des résultats immédiats. Était-ce juste de l'évincer ou bien a-t-elle payé pour des années d'errement ou de non-repositionnement stratégique d'Engie, Marie Desgremont?
Comme pour tous les énergéticiens qui ont aussi essayé de se reconvertir, de se transformer, d'aller voir dans les énergies renouvelables pour des raisons d'avenir ou aussi pour des raisons d'image, les retombées n'ont pas encore été au rendez-vous pour tous, ce n'est pas que pour Engie. Parce que pour l'instant, les énergies renouvelables, c'est très peu. C'est rentable parce qu'il y a beaucoup de subventions, donc les énergéticiens gagnent de l'argent là-dessus, mais ce sont de très petits volumes et donc ça fait peu rentrer d'argent dans les caisses de ces énergéticiens. Engie comme pour tous les autres.
Alors c'est un secteur très concurrentiel, qu'est-ce que cet événement dit finalement de l'état de ce secteur?
C'est un secteur très concurrentiel, donc en fait tous les énergéticiens vont vers les énergies renouvelables, mais il y a un petit gâteau à se partager, donc ils ne gagnent pas tant que ça dessus. C'est le problème justement, puisque c'est une transformation profonde du groupe Engie, ce qui a demandé beaucoup d'efforts à tous les salariés, qui a beaucoup déstabilisé, et finalement c'est pas grand-chose pour le moment, on sent pas encore les fruits de cette transformation, d'où les problèmes qu'on a pu observer.
Mais c'est quand même un peu paradoxal, Marie Desgremont, parce qu'on a l'impression que l'énergie n'a jamais été aussi chère, et pour autant, les grands acteurs de ce secteur ne gagnent pas tous de l'argent, je dis pas tous, parce que je crois que les pétroliers s'en sortent quand même plutôt bien.
Oui, parce qu'ils s'appuient sur un tas d'or qui est le pétrole. Mais pour les gaziers, par exemple, donc sur les énergies renouvelables, c'est des petits volumes. Sur l'éolien, par exemple, c'est 1% de notre production d'énergie. On en parle beaucoup, mais c'est juste 1%. Donc quand vous êtes très concurrentiel sur du 1%, ce n'est pas grand-chose. Idem pour les services. Les énergéticiens se reconvertissent vers les services pour avoir de la marge, de la valeur ajoutée, de l'efficacité énergétique. Mais là encore, c'est tout petit, ça ne fait pas de volume, donc ça ne rapporte pas beaucoup d'argent pour le moment.
Et le gaz, c'est moins rentable que le pétrole?
Pour le moment, ça dépend de à quoi on l'utilise en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les pétroliers, eux aussi, essaient de se diversifier, d'aller dans les énergies renouvelables par exemple. Mais eux, ils ont tellement de marge de manœuvre pour investir dans ce qu'ils veulent qu'ils n'ont pas de problème.
Mais alors, du coup, en fait, c'est peut-être moins un problème de rentabilité qu'un problème d'image ou un problème de recherche pour le futur quand des groupes qui sont spécialisés dans des énergies non renouvelables vont dans des énergies renouvelables, Marie Desgremont.
Pour l'instant, en fait, je dis, ils se diversifient, mais ça reste très très peu. Les principaux opérateurs du pétrole et du gaz, ils investissent moins de 1% de leurs investissements dans les énergies propres. Donc 99% du reste reste dans les énergies fossiles.
C'est-à-dire dans le fait de maintenir les infrastructures, parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de recherche et développement dans le pétrole ou dans le gaz, je me trompe?
C'est tous les investissements dans le cœur de métier. Et donc, quand on dit qu'il faut diminuer dès maintenant de un peu plus de 7% de nos émissions de gaz à effet de serre et que 99% des investissements des pétroliers et des gaziers sont dans le fossile et dans ce dont on doit sortir, on n'est pas sorti de l'auberge.
L'État français est actionnaire d'Engie à hauteur de 24%. Quel est le rôle du ou des États auprès des énergéticiens pour prendre le virage justement des énergies renouvelables? Parce que c'est ça aujourd'hui la question qui se pose.
Oui, alors il n'y a pas uniquement l'État actionnaire, il y a aussi l'État qui fixe la réglementation. Et en France, justement, on a une stratégie, un plan climat qui fixe cette sortie des énergies fossiles et notamment la sortie du gaz à 2050. C'est marqué clairement, nous sortons du gaz. Et donc pour un acteur...
Sortir du gaz, ça veut dire qu'on aura...
Plus de gaz fossile à 2050. C'est marqué clairement dans le projet climat de l'État. Et donc quand on est un gazier comme Engie, ça peut poser problème.
Oui, effectivement. Mais alors, les particuliers, alors 2050, c'est loin évidemment, Marie Desgormont, mais tous ceux qui utilisent aujourd'hui du gaz pour se chauffer, pour des utilisations domestiques autres, comment vont-ils faire?
La vraie question, c'est comment on fait? Et c'est pour tout le monde, parce que pour Engie, c'est une grande entreprise. Comment on fait pour les salariés? Comment on organise le repli du gaz? Quand on parle, pour faire un lien avec un sujet d'actualité, la retraite des industries électriques et gazières, ça aussi, donc il va falloir le penser. Il va falloir penser à organiser ça sur des bases économiques saines, et pour l'instant, on ne le sait pas. Idem pour les consommateurs, puisque les prix vont augmenter. Comment on va pouvoir se chauffer? Comment on va pouvoir changer d'énergie? C'est une vraie question. Et donc, pour l'instant, on a l'objectif, on a le grand plan, mais on n'a pas la solution. Comment on fait? Comment on organise? Et c'est aussi 2050, mais c'est dès maintenant, parce que la planification énergétique de la France impose de diminuer de 25% notre consommation de gaz d'ici à 2028. Donc c'est dès maintenant. Et pour l'instant, personne n'a les clés.
Et remplacer tout ça par des énergies renouvelables, bien entendu.
Par des énergies propres, puisque les énergies renouvelables ne fournissent pas toutes les mêmes services. Certaines sont variables, donc on ne peut pas avoir du soleil la nuit, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on met comme énergie propre? Donc c'est toute une discussion en fonction des différents mérites des différentes énergies propres, décarbonées, nucléaire, électricité renouvelable. Comment on va faire? Quel mix on va utiliser? Ça, c'est une bonne question. Elle est politique, elle est économique et elle est sociale.
Merci beaucoup, Marie Desgremont. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques associé au CSO, le Centre de sociologie des organisations à Sciences Po.